le 7-9 de France Inter. Première matinale de France, à suivre aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Et l'invité du grand entretien de France Inter est donc la vice-présidente du Parti Les Républicains, première adjointe au maire de Bordeaux, Alain Juppé. Question de Léa Salamé dans une dizaine de minutes. Intervenez, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter. Virginie Calmels, bonjour.
Bonjour Nicolas Demoiron.
Et merci d'être au micro d'Inter. Vous publiez aux éditions L'Observatoire un livre qui s'appelle, non pas J'accuse, mais J'assume. On y viendra tout à l'heure. Un mot pour commencer sur le deuxième jour de garde à vue qui démarre pour Nicolas Sarkozy dans le cadre de l'enquête sur le possible financement libyen de la campagne de 2007. C'est inédit, mais la justice fait-elle sereinement son travail et suit-elle sur ce dossier un cours normal d'après vous ?
Écoutez, j'aime pas commenter des affaires judiciaires et a fortiori de dossiers que je ne connais pas. Je veux assurer à Nicolas Sarkozy l'amitié de toute une famille politique et des sympathisants de la droite en général. Rappeler que, évidemment, la présomption d'innocence s'applique à tous, mais évidemment aussi, la justice doit faire son travail et je crois que c'est ce qu'elle est en train de faire.
Nous restons confiants. Un justiciable comme un autre ?
Oui, un justiciable comme un autre. Et en même temps, si vous me permettez cette expression à la mode, est-ce que la garde à vue est forcément nécessaire ? Bon, c'est pas à moi de répondre à cette question, mais on sait qu'il ne s'est jamais soustrait à la justice, il s'est toujours présenté devant les juges, il n'y a pas de risque qu'il fuit. Donc bon, après...
Peut-être un petit quelque chose de vexatoire, si je vous entends bien.
C'est possible, en revanche, j'ai entendu ce matin qu'il n'avait pas passé la nuit, et je crois que ça me semble être une bonne décision de, une fois encore, respecter d'abord le statut de président de la République, mais aussi la personne et le contexte. Voilà, on n'est pas sur un individu dangereux et on n'est pas sur un individu qui pourrait s'enfuir.
Dernière question sur le sujet. Comment les Républicains, les membres de votre parti avec qui vous avez pu en parler, réagissent-ils je l'ai dit, à cette scène tout de même inédite?
Bah, vous l'avez vu hier, il y a eu de nombreux témoignages d'abord de soutien, ensuite de rappel quand même que c'est pas la première fois et que ça ne veut rien dire étant donné que beaucoup d'affaires se traduisent à la fin par rien, hein, c'est-à-dire des non-lieux. On se rappelle de l'affaire Bettencourt, donc on verra comment cette nouvelle affaire se déroulera et se conclura.
Une importante grève des fonctionnaires est prévue demain. Virginie Calmels, Éducation nationale, hôpitaux s'agrégeront aussi les mouvements à la SNCF, à Air France. Est-ce d'après vous un front social qui est en train de naître en France ?
Oui, je crois que d'abord, il y a probablement la découverte de ce qu'est l'impulsion gouvernementale d'Emmanuel Macron. Peut-être aussi le fait qu'il y a beaucoup de communication, mais derrière, on commence à voir une différence entre la communication et les actes. Et puis, dans certains domaines... On sent que ça braque sur un certain nombre de sujets sans aller au bout des réformes. Si
Par
je prends l'exemple de la SNCF, et vous imaginez bien que je suis favorable, évidemment, à une refonte du statut des cheminots, parce que je crois que c'est une décision de justice. Nous y avons aspiré nous-mêmes. C'est important, à un moment donné, de rappeler que le métier a évolué et qu'on peut pas avoir le même statut qu'il y a 30 ans. Pour autant... on va prendre le risque de bloquer le pays sans vraiment traiter le problème de fond. Le problème de fond, c'est 3 milliards de dettes sur l'aspect des retraites. Ça, ce n'est pas du tout traité dans le projet de loi actuel. C'est un endettement colossal. Et puis, c'est les usagers. Comment les usagers, in fine, vont avoir un système qui fonctionne mieux? Là, on a l'impression que c'est une réforme un peu d'actionnaire, de gestionnaire, mais pas une réforme tournée vers le bénéfice des usagers. Et heureusement que nous avons fait notre famille politique, le service minimum, parce que sinon, on aurait demain une journée bien, bien difficile.
Elle risque de l'être malgré tout. Quand vous dites les réformes braquent ou les projets de réformes braquent, vous pensez à quoi ? À la voie des ordonnances, là, qui a été choisie pour amorcer la réforme de la SNCF ?
Oui, je crois que là encore, les ordonnances peuvent être des bonnes solutions quand elles sont utilisées, notamment en début de quinquennat, pour accélérer, pour aller vite. Mais il y a un moment donné où il faut aussi tenir compte du dialogue, et c'est essentiel. Après, si je regarde le projet également sur les indemnités chômage, on brandit l'idée de davantage de contrôle, mais au fond, le gouvernement ne s'attaque pas à ce qui était dans le projet de la droite, qui était beaucoup plus courageux et surtout qui avait beaucoup plus de résultats, qui était la dégressivité des indemnités chômage. Donc souvent, on a l'impression de beaucoup de communication pour finalement pas grand-chose.
Et en même temps, on n'est qu'au début des processus sur la SNCF.
Oui, mais il y a cette volonté de mener tambour battant beaucoup d'annonces. On a l'impression qu'il y a une multiplication d'annonces tous azimuts. Et quand on creuse, malheureusement, moi j'aurais tendance à dire qu'il faudrait peut-être un peu moins d'annonces, mais aller plus au fond des dossiers pour permettre réellement une transformation du pays. Aujourd'hui, le gouvernement ne baisse pas la dépense publique. Tant qu'on ne baissera pas la dépense publique dans notre pays, une dépense publique qui représente 55% du PIB, en fait, on est privé de marge de manœuvre. Et donc, la seule chose qu'on fait, c'est prendre à Pierre pour donner à Paul, c'est prendre dans la poche droite pour mettre dans la poche gauche. On voit le problème des retraités. Ils ont d'ailleurs défilé pour manifester leur mécontentement parce qu'au fond, une augmentation aussi élevée de la CSG paraît injuste à tous.
On va y venir, mais juste un mot sur les fonctionnaires. Je le disais, c'est une grève de fonctionnaires au départ, ça agrège ensuite d'autres conflits. Est-ce que vous les comprenez, les fonctionnaires qui descendent dans la rue, ou est-ce que là aussi, bon, il faut avancer, réformer la fonction publique, que ça plaise ou non?
Bah écoutez, moi je fais partie de ceux, parce que j'ai passé 20 ans en entreprise privée, qui pensent que oui, il faut réformer la fonction publique, mais justement pour accompagner mieux les fonctionnaires, pour leur donner plus de perspectives, pour leur donner des meilleurs salaires. Parce qu'aujourd'hui, la fonction publique, c'est malheureusement un régime qui est extrêmement contraint, qui finalement traite un peu tout le monde de la même façon, les bons ou les moins bons, avec un plan de carrière qui est totalement figé, des perspectives de salariales qui sont totalement connues à l'avance et qui empêchent d'avoir des vraies marges de manœuvre. Et puis, là encore, il y a des gens formidable dans la fonction publique, mais je pense qu'il faut... Si vous regardez le taux d'absentéisme, il est extrêmement élevé. Donc, mécaniquement, la réponse est oui, Nicolas Demorand. Parce que quand vous avez 32 jours d'absentéisme dans les collectivités, ben vous êtes obligé d'augmenter mécaniquement les effectifs pour pallier l'absentéisme. Moi, je préférais qu'on travaille au bien-être au travail, qu'on travaille à redonner de l'envie, des perspectives et à faire baisser cet absentéisme qui est souvent le témoignage d'un mal-être, de mauvaises conditions de travail. Et puis, je crois qu'il est temps de redéfinir le périmètre de l'État. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que, évidemment, il faut moins de policiers ou moins d'infirmières. Non, il en faut sûrement beaucoup plus. Et surtout, il faut que les policiers travaillent à leurs tâches de policiers et non pas à des tâches administratives comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, on a besoin de réformer notre fonction publique aussi en diminuant la réglementation, les normes qui, et des métiers qui deviennent inutiles et en numérisant. Vous savez, à Bercy, par exemple, l'administration fiscale s'est modernisée. Et je pense que ça peut être un exemple pour beaucoup d'évolutions dans la fonction publique.
Un mot des retraités qui sont également en colère en raison de la hausse de la CSG au 1er janvier dernier. Le Premier ministre Édouard Philippe a concédé un geste pour 100 000 d'entre eux. C'est un recul purement technique, d'après vous, pour lisser ce qu'on appelle les effets de seuil qui concernaient ces 100 000 personnes-là, ou c'est, d'après vous, un geste politique beaucoup plus fort, même s'il n'est pas avoué?
Je crois que ça prouve une fois encore que il y a beaucoup de choses qui ont l'air peu préparées ou mal préparées. On l'a vu sur le seuil. Ce seuil, il était un peu à géométrie variable. On nous disait 1200, 1100, 1280. Ça changeait selon les interviews. Quoi qu'il en soit, je vais vous dire, le problème, il est, une fois encore, ce que je viens de dire, quand il n'y a pas de baisse de la dépense publique, en fait, on continue à augmenter l'impôt. On a, l'INSEE le dit, 4,5 milliards d'impôts supplémentaires en 2018. C'est ça notre problème. Et le problème pour notre pays, c'est que tant qu'on continuera à dépenser un argent qu'on n'a plus, parce que quand on a 98% du PIB en dette, c'est qu'il est vraiment temps de faire des économies, mais il est aussi temps de dire, et c'est pas le modèle de société dans lequel moi j'ai envie de vivre, qu'il faut arrêter d'assommer les retraités ou d'assommer les gens qui travaillent.
Donc pour vous, là, c'est juste, on a lissé un seuil. ailleurs. Il n'y a pas de reculade en race campagne sur une réforme profonde.
Je pense que malheureusement, on commence à pouvoir poindre des reculades successives du gouvernement par rapport aux manifestations qu'on puisse produire. Donc effectivement, des retraités dans la rue, l'image a été forte et je pense que le gouvernement s'est senti obligé de faire un geste, mais qui ne me rassure pas en l'occurrence, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas cette vision, il n'y a pas cette volonté, si vous voulez, de donner un souffle à notre pays, de libérer les personnes qui travaillent du joug de l'impôt, de baisser les charges. C'est ça notre objectif collectif. Et pour ce que je vois là, moi, c'est la poursuite au fond d'une social-démocratie où on distribue un argent qu'on n'a plus et du coup, on augmente encore les impôts. Et là, le choix du gouvernement est clairement de prendre aux retraités pour essayer de donner un petit peu, mais beaucoup moins d'ailleurs, parce que la hausse de la CSG est bien supérieure aux baisses de taxes d'habitation prévisionnelles.
Redoutez-vous, dernière question avant de donner la parole à Léa, le démantèlement du quotient familial ?
Ah bah oui, là c'est quelque part, alors là pour moi, une ligne rouge infranchissable par rapport à ce que nous avons toujours voulu porter, la famille de la droite, la défense de la famille et l'universalité des allocations familiales, mais également une politique qui ne soit pas directement liée aux revenus, parce que c'est essentiel pour notre pays de continuer à protéger la famille. Ça fait partie, vous voyez, de toute cette petite musique qui est en train de s'installer, où on sent un gouvernement qui est simplement en train d'essayer de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Alors, il y a quelques jours, c'était la taxe foncière qui aurait pu soudain être variabilisée sur les revenus. Maintenant, c'est le quotient familial. On sent qu'il y a une volonté de toucher à l'impôt sur le revenu. Et je vais vous dire, moi, la seule volonté de toucher à l'impôt sur le revenu acceptable, selon moi, ce serait de le baisser. Et pour le baisser, il faut baisser la dépense publique.
Il est 8h33. Léa Salamé.
Virginie Calmels, Marlène Schiappa présente aujourd'hui son projet de loi pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. L'âge du consentement sexuel sera fixé à 15 ans. C'est bien 15 ans ?
Écoutez, moi ce que je trouve intéressant, c'est le débat qui peut jaillir derrière ça, mais j'ai vu quand même qu'il y avait parfois des volontés d'aller... on a parlé de 13 ans à un moment donné. Effectivement, le projet de loi est à 15 ans. Moi, je trouve toujours ça jeune, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut
aussi... Vous l'auriez mis à quoi ? À 16 ans ?
Non, parce que là encore, on le sait, c'est 15 ans l'âge pour la majorité pénale, et donc ça paraît assez logique d'aligner sur cet âge-là.
Une amende qui irait de 90 à 750 euros pour outrage sexiste, vous soutenez ? Ça peut changer les choses ou c'est de l'affichage ?
Non, pour moi, c'est de la communication, et c'est surtout quelque chose qui me gêne, c'est qu'on est en train de tout confondre. Voilà, on confond... D'un côté, les violences faites aux femmes, et ça c'est une bonne cause et juste cause à défendre, avec des viols qui sont malheureusement, et on le voit dans les chiffres, pas encore assez déclarés, pas encore assez condamnés aussi. Hein.
Un outrage sexiste, c'est pas une violence faite aux femmes ?
Non mais... si vous me permettez d'aller au bout du raisonnement, il y a donc d'un côté vraiment des sujets qui sont majeurs et sur lesquels on doit se mobiliser, et puis de l'égalité homme-femme salariale, etc. Et puis de l'autre, on est dans de la communication, voire parfois dans de l'anecdote. Moi, excusez-moi, mais commencer à légiférer avec une amende de 90 euros, le fait d'être sifflé dans la rue, Léa Salamé, franchement, vous êtes une femme, moi aussi, je ne crois pas que ce soit le sujet. Voilà, donc je pense que c'est beaucoup de communication, je pense que les policiers...
C'est pas seulement siffler, ça peut être insulté, ça peut être les fameux frotteurs, c'est tout ça, les outrages sexistes.
Bien sûr, mais là encore, d'abord, c'est bien de créer de la dissuasion. Si c'est de la dissuasion, c'est toujours bien. Moi, je crois plutôt...
Vous dites, c'est pas grave d'être sifflé dans la rue,
non,
au fond.
Non, mais à la pédagogie, au fait de porter le débat, ça, c'est intéressant. Simplement pour mettre des limites et rappeler que tous les comportements ne sont pas acceptables. Mais attention à ne pas sombrer dans le puritanisme. Attention de ne pas commencer à tout mélanger. Traitons les vrais problèmes. Valérie Boyer a déposé une PPL parce que 80% des viols sont finalement déclassés en délit et non plus en crime. C'est plutôt ça le sujet. Et surtout, franchement, on ne va pas se mentir, c'est une loi de plus qui ne sera pas appliquée parce qu'elle n'est pas applicable. Vous voyez, les policiers venir constater. En plus, il faut que ce soit sur le fait.
Vous n'y croyez pas, on a compris. Rapidement, des bus et des métros gratuits. Anne Hidalgo qui envisage de rendre les transports publics gratuits à Paris pour lutter contre la pollution. C'est moderne, ça va dans le bon sens.
C'est magnifique, c'est comme toujours, c'est socialiste en fait. On fait croire que c'est gratuit, mais rassurez-vous, vous payez. Les Français payent et les Franciliens ne sont pas idiots. Donc à la fin des fins, il faut quand même qu'on arrive à expliquer que rien n'est gratuit, d'accord ? Quand on va à la pharmacie et qu'il y a un tiers payant, ce n'est quand même pas gratuit. Tout ça se retrouve en impôts. Et les transports gratuits, ce n'est pas totalement gratuit. Après, est-ce que ça peut être des bonnes mesures pour inciter davantage un certain nombre de personnes à prendre les transports en commun ? Pourquoi pas ? Ça s'étudie, c'est intéressant. Mais attention au mot gratuité, parce que moi, il me fait peur dans la mesure où on déresponsabilise. Et moi, je crois à la liberté et je crois à la responsabilité des individus.
Virginie Calmels, tête de liste pour les élections européennes, c'est pour quand ?
Écoutez, je lis ça à droite et à gauche. Moi, je n'ai pas fait office de candidature. Je pense que l'essentiel pour nous, pour notre famille politique, c'est de se mettre d'accord sur une ligne, de savoir quelle est la ligne que nous allons porter pour ces élections européennes. Vous le savez, dans notre famille politique, il y a différentes sensibilités. Je crois que c'est notre force, d'ailleurs, de marcher sur nos deux jambes, les libéraux, les conservateurs. Maintenant, Laurent Wauquiez a une mission qui va être justement de rassembler cette famille politique et de synthétiser nos différentes sensibilités. Nous allons voir, ça va se clarifier d'ici juin. Écoutez, c'est prématuré, Léa Salamé, pour répondre à cette question.
Mais c'est pas impossible.
Non, c'est pas impossible. La seule chose qui compte pour moi, une fois encore, c'est le fond, c'est les projets, plus que les hommes et les femmes pour les porter.
Allez, 01 45 24 7000, vous avez la parole. Bonjour Claude.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Je voudrais revenir au démêlé de M. Sarkozy avec la justice. Aux précédentes présidentielles, votre parti a présenté trois candidats. M. Juppé, condamné par la justice de son pays. M. Sarkozy, inculpé par la justice de son pays. Et M. Fillon, le chevalier blanc, futur inculpé. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre parti a des problèmes avec l'argent et avec la justice, tout simplement ?
Merci Claude pour cette question. Virginie Calmels.
Oh, écoutez, on ne va pas énumérer ce matin qui a eu des démêlés avec la justice, mais pour le coup, c'est du ni droite ni gauche. C'est à la mode. Jérôme Cahuzac et d'autres ont défrayé la chronique. Je crois que ce n'est pas lié à l'appartenance à une famille politique, mais si on se rappelle, monsieur rappelait les affaires d'Alain Juppé ou même de François Fillon, etc. Ce sont des pratiques qui étaient liées aussi à
une question de génération.
Oui, une façon d'opérer en politique, avec d'ailleurs, parfois, il n'y avait pas de garde-fou. Il y a eu beaucoup d'évolutions en la matière. Et une fois encore, je pense que ce n'est pas l'apanage d'une seule famille politique.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci. Juste avant ma question, je voudrais rafraîchir la mémoire de Madame Calmel. Monsieur Woerth, qui était ministre du budget, était en même temps trésorier du parti. La majorité. C'est aussi une pratique un peu spécieuse et ça n'empêche pas de venir donner des leçons encore aujourd'hui. Ma question, c'était, dans toutes vos interviews, vous dites qu'on a échappé de peu aux extrêmes. J'aimerais bien savoir ce que vous entendez par extrême, parce que le candidat que vous souteniez proposait 500 000 suppressions d'emplois, la suppression de la sécurité sociale, plein de choses, mais que moi je juge tout à fait extrémiste. Je vois pas en quoi vous êtes moins extrémiste que le Parti communiste, qui a fait quand même des choses, le peu de temps où il est au gouvernement, intéressantes dans ce pays. Après, pour le parti de la famille Le Pen, je ne sais pas si vous êtes plus ou moins extrémiste avec M. Wauquiez, mais j'aimerais bien que vous nous disiez ce que c'est pour vous les extrêmes.
Merci Michel pour cette question. Virginie Calmels.
Bonjour Michel, écoutez, je fais partie de la famille politique depuis 4 ans. Je suis peut-être pas une grande politologue, mais il se trouve que quand même, en France, je crois que tous les commentateurs qualifient la France insoumise ou le Front national de parti extrémiste.
Mais vous voyez
le fond de la question. Je l'ai bien vu.
Néanmoins, arrêtons. Du côté de la
tomber
droite extrême.
Dans les caricatures. Quand on parle du programme, par exemple, de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs sont souvent très similaires sur la partie économique, on parle d'une augmentation entre 300 et 400 milliards d'euros de dépenses publiques avec des promesses de retraite à 60 ans. C'est demain on rase gratis. Quand on regarde les positions, et notamment du Front National, évidemment que nous sommes sur des extrêmes, et c'est d'ailleurs pour ça que moi je considère que nous avons avons une cloison étanche à opérer avec le Front National parce que nous ne voulons pas la même chose, nous ne disons pas la même chose et nous n'avons pas la même idéologie. Ensuite, la question de monsieur, c'est de savoir si on doit finalement mettre un voile pudique sur plein de problèmes. Non, nous avons décidé de ne pas le faire parce que je crois que les Français attendent qu'on ait le courage d'aborder les vraies questions, les sujets qui fâchent. Regardez cette tribune des 100 sur l'islamisme. C'est très intéressant de voir que de façon totalement ça traverse les courants politiques. Vous avez des personnalités culturelles, intellectuelles qui osent aborder un sujet majeur pour notre pays qui est ce sujet de l'islamisme rampant et radical.
Vous l'auriez signé cette tribune.
Écoutez, là pour le coup, oui, bien évidemment, parce que je crois que elle fait écho à ce que nous essayons de dire. Le problème, c'est que ces questions sont souvent hystérisées et que quand c'est la droite qui s'en saisit, immédiatement, on nous explique qu'à ce moment-là, on pourrait avoir quelque chose de commun avec le Front National. C'est totalement faux. Pour moi, ce n'est pas du tout commun avec le Front National. C'est en revanche la prise de conscience d'une problématique majeure pour notre pays. Quand Manuel Valls le fait, eh bien, il est moins taxé d'aller tutoyer les lignes du Front National que la droite ne peut l'être. Mais moi, je crois vraiment qu'il faut du courage. Et surtout pour moi, je vais vous dire, alors je suis une femme d'entreprise, que pendant toutes mes 20 dernières années, je me prononçais politiquement plutôt sur les questions économiques, parce que je venais de l'entreprise et que c'est ça qui était mon curseur politique. Aujourd'hui, je trouve que c'est le régalien qui est clé. Je trouve que le gouvernement est en cécité. Quand je vois la réponse de Benjamin Griveaux à cette tribune, il y a un angélisme et une cécité face à un problème qui est mais réel. On ne peut pas le nier, et que l'on soit de gauche ou de droite, merci à Alain Finkielkraut ou à Bernard Kouchner, à Luc Ferry ou à Pierre Nora d'avoir signé cette tribune qui pour moi nous fait du bien.
D'un mot, Virginie Calmels, vous avez des regrets parfois d'avoir quitté le privé pour rentrer en politique.
Comme vous voyez, le sous-titre de mon livre, c'est « Que suis-je allé faire dans cette galère ?» Donc, il y a eu quelques moments, voyez-vous, dans ces 4 ans d'engagement politique où j'ai pu me demander pourquoi j'étais allée dans cette galère. Mais je crois que l'engagement politique est une mission noble quand on l'a fait de façon la plus désintéressée possible et surtout avec des convictions. Moi, j'ai envie de défendre mes convictions. Je suis libérale dans le domaine économique, mais je crois et je souhaite un régalien fort pour notre pays. C'est ça mon ambition et je vais continuer à me battre pour ça.
Merci Virginie Calmels. J'assume aux éditions L'Observatoire. Merci d'avoir été au micro d'Inter depuis 8h20.